Bonsoir. 2 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité en RDC, le coordonnateur national du mécanisme de suivi de cet accord affirme que la RDC a réalisé la majeure partie de ses engagements. Ce qui n'est pas de l'avis du groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre, qui se dit inquiet quant à l'avenir du processus de paix en RDC. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Gérard Toumba, il est directeur de cabinet du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bonsoir, monsieur Gérard Toumba.
Bonsoir.
Emmanuel Kabengele, il est coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur des sécurités et des justices. Cette structure est membre du groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonsoir, monsieur Emmanuel Kabengele.
Bonsoir.
Et Jason Stearns, il est directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Bonsoir, Jason Stearns.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Célébration mardi dernier à Kinshasa de l'an 2 de l'accord cadre d'Addis Abeba au mécanisme national de suivi. Placé sous le thème « La consolidation de la paix et la stabilité pour le développement dans la région des Grands Lacs », cette célébration s'est déroulée sous le format des conférences débat. Il ressort de tous les exposés que la RDC a fourni des efforts à travers des engagements pris dans cet accord cadre pour le retour effectif de la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Innocent Olenga pour les détails.
5 intervenants sont passés tour à tour. François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi, général Denis Kaloumé, coordonnateur régional du mécanisme de suivi, Olivier Kamitatou, ministre du plan et des suivis de la révolution de la modernité, Moustapha Soumaré, adjoint du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et un délégué de la société civile. Passant au peigne fin, les engagements du gouvernement contenus dans cet accord cadre, François Mwamba estime que le gouvernement congolais a réalisé les gros de ses engagements et manifeste la bonne volonté pour le reste. Denis Kaloumé abonde dans le même sens quant aux engagements régionaux de la RDC.
Comme c'est nous qui sommes les plus concernés par la paix chez nous, nous honorons ces engagements d'une manière assez prompte.
Pour Olivier Kamitatou, il nous faut la paix pour notre développement.
Nous ne pourrons pas avoir le véritable développement du pays sans la consolidation de la paix et le renforcement de l'État. Si nous voulons accéder à l'émergence, il nous faut la paix dans l'est du pays, il nous faut consolider nos acquis, il nous faut aller vers plus de développement, mais également plus de prestations de services pour les populations.
Mais toutefois, les inquiétudes de François Mwamba et Denis Kaloumé sont manifestes. La RDC fait sa part, mais d'autres signataires, notamment les Rwanda et l'Ouganda, crachent sur cet accord cadre.
En réaction au bilan qui est fait le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les organisations membres du groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre et la résolution 2098 du Conseil de sécurité se disent inquiètes. Elles s'interrogent sur l'avenir du processus de paix en République démocratique du Congo, partant de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Et l'ont fait savoir dans une conférence de presse tenue récemment à Kinshasa. Les détails avec Berry Franklin Luchaka.
Dans leur communiqué de presse conjoint, les organisations membres du groupe de travail affirment que si l'on y prend garde, l'accord cadre tant vanté risque d'allonger la liste des accords de paix en RDC qui ont échoué les uns après les autres. Le groupe de travail note que, je cite, « les quelques avancées enregistrées se traduisant à des faits d'annonce ne sauraient fonder les déclarations d'autosatisfaction si l'on sait qu'en RDC, la mise en place du mécanisme national de suivi fonctionnant avec l'unique organe exécutif n'arrive toujours pas à mettre en application la matrice de suivi des indicateurs de référence sur les réformes à entreprendre. » Fin de citation. Par exemple, à en croire le communiqué de presse de cette structure, la neutralisation des groupes armés achoppe la mise à l'écart des commandants accusés d'implication dans la violation des droits de l'homme entre le gouvernement congolais et ses partenaires, principalement la MONUSCO, et que le processus électoral est conduit en dehors du schéma consensuel. Le groupe de travail pense que le gouvernement congolais fera œuvre utile en exécutant de bonne foi ses engagements relatifs, notamment à la réconciliation nationale par la libération des prisonniers d'opinion, la démocratisation par l'organisation d'un dialogue devant déboucher sur l'adoption d'un processus électoral réaliste et consensuel, la lutte contre l'impunité par la mise à l'écart des commandants impliqués dans des violations des droits de l'homme et la poursuite de la coopération avec la MONUSCO afin de neutraliser tous les groupes armés qui écument encore l'est de la RDC.
Gérard Toumba, je rappelle que vous êtes directeur des cabinets du coordonnateur national des mécanismes de suivi de l'accord au cadre d'Addis Abeba. Deux ans après sa signature, quel bilan vous dressez de la mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba?
Ok, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce sujet. Nous avons effectivement, il y a quelques jours, dans le cadre de la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, organisé une cérémonie commémorant les deux ans de la signature de l'accord cadre. Nous avons présenté un bilan qui, ma foi, a révélé certaines avancées significatives dans certains domaines. Mais effectivement, dans d'autres domaines, nous avons eu le courage de le reconnaître. Il reste énormément de choses à faire qui doivent bénéficier de l'impulsion du gouvernement. Parce que il ne faut pas oublier que le mécanisme national de suivi n'est pas un organe qui fait les réformes. Le mécanisme national de suivi a été institué pour pouvoir monitorer ce qui est fait par le gouvernement. Le metteur en œuvre des réformes qui sont attendues au terme de la signature de l'accord cadre, c'est le gouvernement. La structure qui s'est engagée à mettre en place tout ce qui a été convenu, c'est le gouvernement. Et le mécanisme national de suivi découle de cet accord où il a été institué un mécanisme pour pouvoir monitorer ce qui est fait. Et le mécanisme national de suivi est là pour dire ce qui est fait. Si c'est bien fait, on le dit. Si c'est pas bien fait, on le dit aussi. Si c'est pas fait à temps, on le dit, hein, et on tire les sonnettes d'alarme à l'égard de tous les intervenants pour que, en fait, chacun puisse accomplir sa part.
Oui, vous venez de le dire dans les bilans que vous avez dressés. Vous dites que ces bilans révèlent certaines avancées significatives dans certains domaines et d'autres sont fonction, n'est-ce pas, de l'impulsion du gouvernement. Quelles sont les avancées que vous relevez, n'est-ce pas, dans ces domaines-là?
Ok, vous savez que je veux rappeler à tous les spectateurs que j'ai malheureusement oublié de saluer au début de cette émission. Je salue tous les nombreux auditeurs de Radio Okapi. Donc, l'accord cadre s'articule notamment en ce qui concerne les points d'engagement du gouvernement en 5 points, hein, que je vais citer très rapidement. Le premier point, c'est celui qui demande au gouvernement d'approfondir et de continuer la réforme du secteur de sécurité. Le deuxième engagement, c'est celui relatif à la consolidation de l'autorité de l'État. Le troisième point, c'est celui relatif à la promotion de la décentralisation. Le quatrième point, c'est le développement économique. Le cinquième point, c'est les réformes institutionnelles de l'État et des finances publiques. Et le sixième point, la sixième ligne, hein, l'engagement, c'est celui de promouvoir la démocratie, la réconciliation et la tolérance. Voilà. Alors, quand vous prenez ces domaines un à un, il y a des avancées qui ont été établies dans tous ces domaines. Ne fût-ce que, il y a des choses qui ont été relevées, que nous avons pointées, qui ont été faites.
Et prenons la réforme du secteur de sécurité.
Voilà, la réforme du secteur de sécurité, c'est la réforme phare de cet accord. La sécurité, qui parle de la sécurité, parle de l'armée, de la police,
des services de renseignement,
et de la justice, parce que dans le concept des gens qui ont écrit cet accord, le secteur de la sécurité comprend la justice aussi. Alors, quand vous prenez le secteur de l'armée, il y a des choses essentielles qui ont été faites. Vous savez qu'il y a quelques années encore, on ne savait pas dire quel était l'effectif de l'armée, tout ça, des choses comme ça. Bon, maintenant dans chaque militaire.
Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'effectif FARDC?
Chaque militaire FARDC a une carte d'identité militaire biométrique. Donc, il est à croire que les effectifs de l'armée sont actuellement maîtrisés. Il était demandé à l'armée, pour pouvoir remplacer la brigade d'intervention rapide, de mettre très rapidement en place ce qu'on appelle des unités de réaction rapide. Ces unités ont été formées, ils sont sortis, vous avez bien suivi, de l'école de Moura, du centre de formation de Moura à Likassi. Il y en a qui sont sortis des centres de formation qui sont tenus par des Américains à Kisangani, des Belges à Kindu, et ainsi de suite. Donc ces brigades sont en train de se former et montent en puissance pour pouvoir remplacer, parce que la brigade d'intervention rapide de l'ONU n'a pas vocation à s'éterniser chez nous. Donc voilà, il y a ça qui est en train de se faire. Il y a le fameux problème du DDR avec la démobilisation des ex-combattants des groupes armés nationaux et étrangers, notamment les FDLR, les opérations qui sont en cours maintenant, Sokola 2 et tout ça, les M23, les avancées qui ont été obtenues. Vous savez qu'avec les M23, c'est pas facile. Il y a une déclaration séparée signée par le gouvernement et par l'ex-mouvement rebelle qui ont été signées à Nairobi le 12 décembre 2013.
Et sur le plan normatif aussi, il y a des avancées, n'est-ce pas?
Ah oui.
Il y a des lois qui ont été adoptées et promulguées par les
Américains. Il y a des lois qui ont... Il y a essentiellement des textes qui ont été promulgués. Il y a des textes réglementaires qui sont élaborés au niveau de l'armée et tout ça. Donc tout ça, on ne peut pas dire que rien ne se fait dans ce domaine. Dans le domaine de la police, c'est le domaine où la réforme est la plus avancée, effectivement. Voilà.
Merci Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme des secteurs des sécurités et des justices. Votre structure donc est membre du groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans les bilans que vous avez fait, que vous avez dressé sur la mise en œuvre de cet accord cadre, vous notez qu'il n'y a pas d'avancée, que les quelques avancées enregistrées se traduisent à des faits d'annonce. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, merci de la parole et merci de nous avoir donné cette occasion de pouvoir d'une certaine manière rendre public le fruit de toutes nos analyses, parce que il est vrai que lorsqu'on lit telle analyse, on a besoin d'un certain nombre d'explications là-dessus. Vous savez, avant de répondre un peu à votre question, je voudrais juste préciser que cette fois-ci, le 24 février dernier, on n'a pas produit un rapport. On a juste produit un communiqué de presse, mais à l'issue d'une réflexion sur l'avenir du processus de paix. Pourquoi avoir juste produit le communiqué de presse? Parce que l'année dernière, on a eu à produire deux rapports. Le premier, c'était le 24 février 2014, et le second, c'était le 15 septembre 2014. Tous ces deux rapports, c'était sur l'état de la mise en œuvre de l'accord cadre. On avait d'abord produit un rapport préliminaire et on a eu à produire notre rapport d'étape, mais on s'est rendu compte, le 24 février dernier, que le contenu de ces deux rapports continuait à garder leur actualité. Et on s'est dit, est-ce qu'il faut encore en produire un? En produire un, ça voudrait dire revenir sur les éléments déjà anciennement
présentés. C'est-à-dire que les différentes parties n'ont pas tenu compte, n'est-ce pas, de ce que vous avez recommandé dans ces différents rapports?
En fait, ces différentes parties ont tenu compte à leur manière. Donc, et nous allons essayer...
C'est une manière qui ne vous arrange pas.
N'arrange pas. Et les avancées que l'on note, pour nous, ce sont des avancées qui s'inscrivent presque sous la coupe de la liturgie de la parole. Ça veut dire que lorsque on voit plus de priorités dans les discours, lorsqu'on adopte de textes, lorsqu'on crée des structures, lorsqu'on crée des cadres, mais on crée des structures, on ne dote pas des moyens de structure pour lui permettre d'aller de l'avant dans son travail. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. on adopte des lois, on promulgue des lois, mais on ne prend pas un certain nombre de mesures d'application pour rendre ces lois réelles, suffisamment pratiques. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est dire qu'il y a suffisamment de dossiers. On prend de budget, on considère la réforme du secteur de sécurité comme une priorité, mais dans le budget de l'État, cela ne transparaît pas de manière claire. Ça, c'est également une autre paire de manches. Donc, c'est vous dire que pour nous, par rapport à ces indicateurs, par rapport à ces signes, on sent simplement qu'il y a du retard dans le processus. Les avancées bien annoncées ne sont pas des avancées significatives. C'est peut-être une mise en train qui est simplement en train déjà d'être faite. Et nous pensons peut-être que dans le prochain jour, en tenant compte du discours politique, des assurances, que le budget effectif par rapport aux différents engagements pourraient être mis sur la table pour que et les mécanismes puissent faire son travail et les différents ministères puissent bien
pourtant
faire son
travail. Pourtant, les coordonnateurs des mécanismes de suivi a indiqué mardi dernier que le gouvernement a non seulement réalisé la majeure partie de ses engagements, mais que aussi il manifeste la bonne volonté pour exécuter ses obligations qui restent.
La bonne volonté est toujours là dans les discours. Ça, c'est vrai, parce que lorsque vous lisez tout le discours, tout le programme, la réforme du secteur de sécurité, c'est la priorité des priorités. Nous, on ne refuse pas qu'il n'y a pas d'avancée. Plutôt, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'avancée. On reconnaît qu'il y a certaines avancées, mais
qui ne sont pas suffisantes.
Ce sont des avancées timides. Ce sont des avancées qui ne rassurent pas. Imaginez-vous, je prends l'exemple de la réforme du secteur de sécurité. Et dans tout ce paquet de réformes du secteur de sécurité, il y a la réforme de la police, il y a la réforme de l'armée, il y a la réforme de la justice, mais il y a également la réforme de services d'intelligence, qu'on appelle ici le service de renseignement. Je prends juste le paquet réforme de la police. On a vanté le mérite de cette réforme parce qu'il y a un plan d'action quinquennal pour la réforme, il y a une loi de programmation pour la réforme. Mais hier, nous avons eu le comité de suivi, l'organe politique du comité de suivi de la réforme de la police, présidé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. On s'est rendu compte qu'en termes du taux d'exécution du plan quinquennal, c'est juste 3%. 3% de ce qui est exécuté jusque-là. Donc vous comprenez que en ce qui concerne la réforme de la police, même si les jalons sont posés, il y a encore un autre obstacle en termes de budget. La réforme de l'armée, pourquoi on dit que la réforme de l'armée, on continue encore à être dans le cadre théorique? On a salué également le fait qu'en septembre, on a mis en place le personnel clé des nouvelles structures de forces armées, la RDC. C'est un des préalables importants pour cette réforme. Mais ce personnel n'est pas encore mis en condition en termes d'infrastructures, en termes de bureaux. Certains des animateurs nommés n'ont pas de bureaux suffisamment adéquats. C'est encore un autre problème pratiquement là-dessus. Au niveau de la réforme,
vous auriez souhaité que tout soit fait en un jour, il faut reconnaître que la réforme s'inscrit dans un processus.
Ben, on ne dit pas que tout soit fait dans un jour, mais il faut qu'il y ait suffisamment de jalons qui permettent de nous rassurer. Je donne un exemple. En décembre 2013, on promulgue la loi de programmation de la police nationale congolaise. On pensait également qu'en 2014, ça allait être automatique, il y aurait un budget conséquent parce que déjà la loi de programmation était là. Mais en 2014, on n'a même pas tenu compte de la loi de programmation.
Merci Jason Stones, vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York, ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Le gouvernement estime avoir respecté la majeure partie de ses obligations dans le cadre de l'accord au cadre, tandis que le groupe de travail qualifie d'effet d'annonce les quelques avancées enregistrées. Comment vous analysez ces débats? Allô, Jason? Voilà, apparemment nous avons perdu Jason, on va essayer de les rappeler. Gérard Toumba, vous avez suivi Emmanuel Kabengele qui reconnaît, n'est-ce pas, qui a eu des avancées, mais des avancées timides. Bon, il dit par rapport à la réforme sur l'armée, n'est-ce pas, il y a des choses qui ont été faites, mais les moyens n'ont pas suivi. Par rapport à la réforme sur le plan normatif, des lois qui ont été adoptées, n'est-ce pas, mais il n'y a pas eu des mesures, n'est-ce pas, d'application pour rendre ces lois effectives.
Ok, je voudrais d'abord rappeler ici que si la RDC était un pays normal, on n'aurait pas signé cet accord. C'est parce que justement, il a été constaté que nous avions énormément de problèmes chez nous, que la communauté internationale s'est portée à notre chevet et pour nous accompagner dans cet accord. Parce que pour la toute première fois, l'accord cadre, c'est le seul élément englobant autour duquel tout le monde s'est mis d'accord. Parce que si vous voyez la qualité des signataires de l'accord cadre, c'est la communauté internationale tout entière.
11 plus 4.
Voilà, 11 plus 4, c'est pas assez. Il y a le secrétaire général des Nations Unies qui représente toute la communauté internationale. Il y a l'Union africaine, il y a la SADC, la CIRGL, il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud qui ont signé en tant que CIRGL, en tant que SADC, et qui ont signé encore en tant qu'Afrique du Sud. C'est dire l'importance que tout le monde qui nous accompagne dans ce processus attache à cet accord. Et alors, je disais ça pour dire que, effectivement, nous venons de loin. Les choses étaient à un niveau tel que aujourd'hui, si quelque chose est fait, je comprends mon frère Emmanuel, les gens de bonne volonté, de bonne foi, veulent voir tout ça aller très vite. Mais dans la réalité, si vous voyez là où nous n'étions même pas à zéro. Nous étions en dessous de zéro. Donc l'effort qu'il faut faire d'abord pour arriver à zéro, hein, est énorme. Hein. Donc je comprends que tout ne marche pas sur des roulettes. Il y a encore des problèmes de réglage, c'est vrai. Mais vous savez aussi la difficulté, il y a séparation des pouvoirs. Nous faisons partie de l'exécutif. Nous ne pouvons pas empiéter sur le pouvoir législatif, effectivement, parce que à chaque session.
Et donc vous faites votre part, comme vous l'avez dit. Voilà. Il y a des avancées qui sont
à chaque session
qui dépendent de l'impulsion du gouvernement.
De l'Assemblée, par exemple, à chaque session de l'Assemblée, nous nous faisons fort d'avoir vite le calendrier de l'Assemblée pour voir quels sont les textes légaux qui vont être examinés. Et tout ça, nous pouvons, le coordonnateur l'a déjà fait plusieurs fois, il est allé voir le président de l'Assemblée nationale, il est allé voir le président du Sénat pour attirer leur attention. Parce que aussi, il faut dire, mon confrère, que les députés, les élus, ne sont pas toujours au courant des faits. Ils ne sont pas toujours au courant des faits.
Merci, merci. On me signale que Jason Stills est en ligne. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, comment vous analysez ces débats, hein, les gouvernements qui estiment avoir respecté la majeure partie de ses obligations dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, tandis que le groupe d'experts, plutôt des travail, qualifie d'effet d'annonce les quelques avancées enregistrées.
Bon, malheureusement, la communication s'est coupée, donc je n'ai pas pu suivre les points faits par mes co-débatteurs. Mais j'aimerais signaler quand même quelques points par rapport à l'accord cadre. L'accord cadre a deux volets principaux, un volet régional et un volet national. Sur le volet régional, quand même, il faut dire qu'il y a eu quelques avancées considérables, notamment à cause de la défaite de l'M23 en 2013 et la diminution de l'ingérence étrangère à l'Est du Congo. Néanmoins, il faut dire que ces avancées n'ont pas forcément été faites à travers les mécanismes de l'accord cadre. Et je crains que l'accord cadre soit devenu un outil ou un mécanisme trop bureaucratique, trop focalisé sur les indices, la création d'indices de progrès, les réunions, et pas assez focalisé sur la dynamique politique derrière le conflit. Donc c'est par exemple comme ça que c'est beaucoup plus la pression diplomatique étrangère sur le Rwanda qui a contribué à la défaite de l'M23 que les réunions formelles de l'accord cadre, par exemple. Aussi, on pourrait dire que par rapport aux groupes armés qui restent à l'est du Congo, l'FDLR, ADF Nalu, comme aussi les autres groupes rebelles congolais, c'est beaucoup plus l'action militaire et l'action bilatérale diplomatique qui a un impact sur cette situation et pas l'accord cadre. Par rapport au volet national de l'accord cadre, là, il y a beaucoup moins d'avancées, je dirais, et je partage le point de vue que je connais de mon collègue Manuel Kabengele, par rapport à les réformes étatiques, les réformes institutionnelles, l'extension de l'autorité de l'État, la réconciliation nationale et un vrai dialogue démocratique en RDC, il y a encore beaucoup, beaucoup qui reste à faire. Et je crains là aussi que on mise trop sur des mécanismes bureaucratiques que sur des mécanismes beaucoup plus politiques. Donc, par exemple, des indices concrets par rapport à la démocratie et pas assez sur un vrai dialogue entre les opposants, la société civile et le gouvernement par rapport, par exemple, au calendrier électoral. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est un accord, on parle d'un accord cadre, on parle d'un accord de paix, mais vraiment, il faut souligner que c'est un accord bizarre parce qu'un accord de paix, normalement, est signé entre des belligérants, entre le gouvernement et ses adversaires. Cet accord, surtout au niveau national, il n'y a pas un partenaire, un adversaire avec qui le gouvernement est en train de suivre ce mécanisme. C'est plutôt ses réformes. C'est entre le gouvernement et lui-même presque. Ils associent la société civile, les opposants d'une façon consultative, mais c'est le gouvernement qui fait son propre suivi pour son travail. C'est pas, une façon idéale de mettre en œuvre un accord, mais c'est la réalité politique derrière cet accord de paix.
Voilà. Dans leur communiqué publié le 24 février dernier, le groupe de travail affirme qu'au plan régional, les pays excellent dans une sorte de passivité face à l'obligation relative à la neutralisation des groupes armés et à l'engagement de poursuivre les personnes soupçonnées de graves violations des droits de l'homme. Et à quoi peut-on attribuer cette passivité, si passivité il y a?
Malheureusement, je vous entends mal, la communication passe mal.
Voilà, dans les communiqués, n'est-ce pas, des groupes de travail qui a été publié le 24 février dernier, ils ont dit qu'au plan régional, les pays excellent dans une sorte de passivité face à l'obligation relative à la neutralisation des groupes armés et à l'engagement de poursuivre les personnes soupçonnées de graves violations des droits de l'homme. Et à quoi peut-on attribuer cette passivité que relève dans leur communiqué les groupes de travail?
Vous parlez de l'apathie des pays limitrophes à l'RDC par rapport aux obligations?
Oui, sur le plan régional. Il y aurait une passivité, n'est-ce pas, l'application de cet engagement.
Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup qui reste à faire, surtout par rapport de tout le leadership, en fait, de l'M23 reste encore dans les camps militaires en Ouganda et au Rwanda. Et c'est un grand problème. Parmi les plus grands objectifs de l'accord cadre, c'était mettre fin à l'ingérence étrangère en RDC. On a vu la défaite du M23, ce qui est une bonne chose, mais la plupart du leadership de M23 reste encore à l'étranger. Il faut dire que la plupart du leadership de l'SDLR reste encore à l'intérieur. Donc il y a des obligations de part et d'autre qui n'ont pas été, remplies. Et là aussi, je pense qu'il faut responsabiliser plutôt les leaders rwandais, ougandais, mais aussi congolais par rapport à leurs obligations.
Voilà, le coordonnateur du mécanisme de suivi a affirmé que le gouvernement manifeste la bonne volonté pour exécuter ses obligations qui restent.
Vous demandez s'ils affichent une bonne foi?
Ils ont dit que le gouvernement, n'est-ce pas, non seulement il a exécuté, n'est-ce pas, ses engagements, la majeure partie de ses engagements, oui. Mais oui. Manifeste la bonne volonté pour exécuter les obligations qui restent.
Bon, j'espère bien, mais je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, nous avons une commission de démobilisation qui a été mise sur pied depuis décembre 2013. C'est une très bonne chose. Il faut avoir, il reste encore 12 à 13 000 combattants congolais sur le territoire congolais. il faut démobiliser. C'est une bonne chose, c'est faisait partie justement des obligations. Mais on a constaté que malgré le fait que ce soit créé sur papier, on n'a pas encore mis le financement nécessaire. Le gouvernement a dit qu'ils allaient mettre 10 millions de dollars pour financer cette commission d'immunisation. Jusque maintenant, cet argent n'est pas encore matérialisé. La communauté internationale non plus n'a pas mis l'argent parce qu'ils attendent encore la partie du gouvernement. Ce sont des, je pense, ce sont des choses assez banales et assez faciles à faire, mais malheureusement, cela n'a pas encore été fait. Et c'est comme ça qu'on constate, par exemple, la mort de plusieurs dizaines des ex-combattants et leurs familles dans les centres d'immunisation comme à Kotakoli. Ça, c'est un exemple. Je pense, mon collègue Emmanuel Cavendille a parlé sur la réforme des services de sécurité aussi, où il y a encore des problèmes. Donc, je pense, je ne peux pas mettre en question la volonté du gouvernement, et surtout pas la volonté du coordonnateur du mécanisme de suivi, François Mamba, parce qu'il n'est que, comme M. Ntumba l'a dit, il n'est que le coordonnateur. Il y a le Parlement, il y a la primature, il y a la présidente, et je pense que c'est partie des problèmes, c'est que vous pouvez avoir la bonne volonté, il y a un chevauchement et des responsabilités entre les différents ministères, avec le coordonnateur, qui est enfin responsable pour mettre en œuvre ces réformes. Donc je pense que c'est pas seulement une question de volonté politique du coordonnateur, mais c'est une question de volonté politique de tout le gouvernement, et là je pense que quand même il y a des critiques à faire.
Gérard Ntumba, il y a une question qui vous est adressée qui vient de Kisangani en province orientale.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Je me demande sur quel aspect que les mécanismes de suivi parlent aujourd'hui de l'évolution de cet accord. Car sur le terrain, c'est comme si la situation s'est amplifiée. Si les lois du pays ne sont pas respectées, pensez-vous qu'un accord peut être respecté dans un pays où l'impunité fait rage à tous les niveaux? Croyez-vous vraiment que la paix reviendra dans toute l'étendue du pays au moment où les ONG, tant locales qu'internationales, citent chaque fois dans leurs rapports la complicité des autorités tant civiles que militaires du pays qui soutient les groupes armés en RDC?
Gérard Ntumba, est-ce que ce n'est pas ces facteurs-là qui expliqueraient, n'est-ce pas, cette manière timide d'appliquer l'accord au cadre d'Addis Abeba?
Écoutez, j'ai bien suivi la question de mon frère Lisungi de la province orientale que je salue en passant. Tout ceci, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le niveau que les choses avaient atteint était un niveau tel que pour pouvoir revenir à la normalité, il nous faudrait du temps. Parce que quand on nous demande d'engager des réformes, les réformes ce sont des processus. Ce sont des processus, il faut d'abord commencer par élaborer les textes, il faut concevoir les réformes. Si on vous dit par exemple que la réforme de la police qui a été écrite par le général Elessé, que je salue en passant, date de 2004 ou 2005 et prévoit d'amener notre police nationale au niveau des standards internationaux à l'horizon 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est souvent un processus long. Je comprends l'impatience de nos compatriotes qui veulent que les choses... Mais les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. C'est pour ça que nous, au mécanisme national de suivi, nous avons pris en partenariat la société civile. Nous disons que la société civile est désormais définitivement un partenaire dans la définition des politiques de développement et aussi dans le suivi, pour nous accompagner dans le suivi de tout ce que nous faisons, parce que la société civile, c'est eux qui vivent auprès de ces populations, qui sont mieux au courant des faits, qui sont mieux au courant des problèmes que la population vit, hein, pour pouvoir les porter au niveau des décideurs du pays. Donc c'est des choses, je comprends bien l'impatience de mon frère Lissungi, mais nous sommes dans un processus des dénonciations, du comportement de nos autorités, des officiers, des FARDC, ça viendra encore, même dans un état normal. Vous avez suivi dernièrement en France, laissez-moi terminer par là, vous avez suivi dernièrement en France le chef de la police secrète, hein, a été mise en examen parce que, justement, il y avait quelqu'un qui était resté à l'intérieur, un ancien lui était sorti, mais il était au courant des choses qui se passaient là-bas. Donc, ça c'est un comportement humain, hein, et là où il y a des hommes, il y aura toujours ce genre de problème.
Emmanuel Kabengele, il y a une question qui vous est adressée, hein, il vient de Lubumbashi au Katanga.
Maxime Kabila de Lubumbashi au Katanga. Je pense que le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a raison en donnant cette affirmation. Vous savez, dans ce genre de situation, il n'y a jamais eu unanimité. Je voudrais demander à cet effet au gouvernement à multiplier d'ardeur pour que la paix et la sécurité soient définitivement acquises au lieu de se laisser emporter par des avis déloyaux de ces groupes. Et cela vient le plus souvent pour distraire l'un ou l'autre groupe en présence.
Voilà, il semble être d'accord avec le bilan dressé par les mécanismes de suivi.
En fait, c'est sa position, il semble être d'accord et nous disons en partant de l'évolution des choses. Vous savez que généralement, et ça c'est les discours le plus entendu, la réforme s'inscrit sur le long terme, la réforme c'est un cadre, la réforme. C'est vrai que la réforme est participant à un processus transformationnel des institutions, ne peut que s'inscrire si les longs termes. Mais les courts termes, ces exigences. Et il y a des exigences, deux fois, qui ne sont même pas liées à des budgets et qui, malheureusement, ne sont pas... Je prends juste un exemple à titre d'illustration. Vous savez, au mois d'août 2011, on a promulgué, je ne parle pas de l'adoption, on a promulgué, le chef de l'État a promulgué la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. En promulguant cette loi, pour que cette loi soit réellement effective, pour que cette loi puisse réellement gagner en effectivité, il fallait un certain nombre de mesures d'application. Dont l'une des mesures, parce qu'il y a un grand organe qui a été créé en termes de l'activation de mécanismes de redevabilité qu'on a appelé l'inspection générale de la police nationale congolaise, il devait y avoir un texte qu'on appelle décret qui doit être signé par le Premier ministre pour pouvoir donner l'impérium qu'il faut à cet organe. Mais alors que le texte le disait, que le Premier ministre devait prendre le décret, là c'est depuis août 2011, nous sommes en mars 2015, le décret n'est toujours pas pris. Mais entre-temps, la réforme s'inscrit dans le temps. Pour prendre le décret, pour signer un décret, je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'acrobatie. Donc il y a en fait un peu un certain nombre de signes qui ne nous rassurent pas. Et nous voudrions sincèrement qu'on nous rassure, qu'on prenne le texte qu'il faut prendre et que la réforme puisse aller de manière normale.
Monsieur Kabengele, dans votre communiqué du 24 février dernier, vous dites que la neutralisation des groupes armés achoppe la mise à l'écart des commandants accusés d'implication dans la violation des droits de l'homme entre le gouvernement congolais et ses partenaires, principalement la MONUSCO, et que le processus électoral est conduit en dehors du schéma consensuel. Comment vous analysez cela?
Oui, nous disons la neutralisation de à choc sur la mise à l'écart de commandants accusés. Vous savez que c'est ça le point d'achoppement entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Tous, on s'attendait qu'après le M23, ça devait être l'FDLR. Pour pouvoir attaquer l'FDLR, il y a eu des sommets qui allaient d'ultimatum en ultimatum. Mais finalement, il y a eu le dernier ultimatum où on disait que après le 2 janvier, eh bien, on devait traquer militairement le groupe armé. Après le 2 janvier, nous, on a attendu que la MONUSCO et le gouvernement fasse corps pour traquer ce groupe armé qui est l'FDLR, qui est le groupe très négatif. Alors que nous, on s'attendait à cela, on s'est vu devant un jeu où chacun se rejetait la balle. Non, la MONUSCO d'un côté, il faut nous enlever les officiers qui sont impliqués dans les violations. Le gouvernement, non, je n'enlève pas ces officiers, il y va la souveraineté. Entre-temps, c'est le peuple qui est perdant. Et ces discussions-là ont pris le temps et finalement, le gouvernement a décidé d'aller en solo dans le cadre de la traque contre le groupe armé. Et le fait d'aller en solo, on souhaite qu'il gagne du terrain. On souhaite que l'FDLR soit éliminé, mais même si l'FDLR est éliminé militairement, il y a des angles politiques, il y a des angles diplomatiques sur lesquels les gouvernements devraient être solidaires avec la MONUSCO, devraient être solidaires avec les autres parties de la communauté internationale. C'est là que nous pensons qu'il y a lieu que le gouvernement reconsidère sa position là-dessus et par rapport à un certain nombre de questions, qu'il y ait un dialogue ferme et qu'il y ait une conjonction d'efforts parce que même la grande armée du monde a toujours besoin d'un appui.
Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas que les groupes armés étrangers. Hein. Nous avons aussi une panoplie de groupes armés nationaux, n'est-ce pas, qui sont à la base de l'insécurité dans l'est de la RDC.
C'est la grande faille au niveau pratiquement de des aspects sécurité. Vous savez, plutôt vendredi dernier, il y a une structure internationale Oxfam qui a rendu public un rapport titré « Insécurité sécurisée ». Et lorsque vous lisez…
Donc, insécurité entretenue.
Sécurisé. Donc, c'est en fait un peu le titre du rapport. Et lorsque vous lisez les rapports, vous vous rendez pratiquement compte que on continue à aller d'insécurité en insécurité et merci. Il faille vraiment des actions de classe.
Jason Stevens, je vous donne, en fait, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert, on est de Bukavu, au sud de Kivu. Je pense que ce que constate le groupe de travail chargé de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba est vrai. Et plus souvent, en RDC, signer un accord est une chose, le matérialiser en est une autre. C'est dommage quand, dans les esprits de tous les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, RDC et autres États ou organisations, il n'y a pas apparemment la volonté politique de mettre en œuvre cet accord pour la paix et la sécurité durable dans toute la sous-région des Grands Lacs.
Oui, Jason, votre réaction par rapport à cette question?
Je pense que je suis d'accord avec l'intervenant, la question, dans le sens que même si, comme M. Toumou l'a dit, il y a des choses qui doivent être effectuées à long terme, donc, le processus de rétablissement de l'autorité de l'État, par exemple, c'est un processus de 10 ans, 20 ans, voire 50 ans, on avait fait. Là, il ne faudra pas être impatient. Il y a des autres choses, il peut être au moins au niveau symbolique, faire des avancées considérables maintenant, dès aujourd'hui. Et là, je pense surtout par rapport à l'impunité. Il y a beaucoup d'accords, congolais comme étrangères, qui donnent une documentation vraiment élargie sur la culpabilité de certains commandants politiciens congolais aussi de l'opposition comme de la majorité, dont le soutien des groupes armés au Congo. Pourquoi ces gens, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été traités en justice? Mais présent. C'est une, je pense, une question qui s'inscrit dans la cocarde, dans l'impunité parmi les problèmes les plus importants dans le service de sécurité congolaise. Ça, c'est une question. Notre question, par exemple, là où on prépare les annonces immédiates, c'est sur quelque chose qui vous avez évoqué, c'est la commission de mobilisation. Il faudra, le Congo a un budget de 9 milliards de dollars. Il faudra trouver seulement ne plus que 10 millions de dollars pour financer la démobilisation des groupes armés congolais à l'est du Congo, qui abuse, qui viole, qui tue la population à l'est du Congo.
Jason?
Il est vraiment tellement difficile de trouver. Oui, vous m'entendez?
Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission. Votre conclusion, en deux mots.
La conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de directs à faire. Il ne faut pas trop penser aux mécanismes très bureaucratiques de la COCARD. Il faut penser à toutes les différentes voies que nous avons pour terminer le problème du conflit en RDC.
Yara Toumba, votre conclusion.
Ok, la conclusion que je peux tirer ce soir autour de ce débat, c'est que il faudrait que les gens comprennent que le mécanisme a été institué non pas pour faire à la place du gouvernement la structure attitrée pour mettre pour réaliser les réformes, c'est le gouvernement. Et je me joins à toutes les voix qui appellent le gouvernement de la RDC à mettre au centre de son action la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que cet accord a été qualifié à juste titre, si vous voyez bien la façon dont il a été conçu, élaboré forêt de l'accord de l'espoir. Alors il ne faut pas qu'on perde cet espoir, il ne faut pas que cette fenêtre d'opportunité qui est ouverte sur notre pays puisse se refaire.
Emmanuel Kabengele, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est d'appeler le gouvernement à donner le budget qu'il faut pour que ces engagements soient exécutés et que le processus de réforme puisse connaître son cours normal.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique, merci à Alain Irung, Kelly Nkoute et Berry Franklin Loukchaka qui était à la réalisation sous la supervision d'Eben Kabamba, à la présentation Guy Maté. Merci et à la prochaine.